Actuellement, nous sommes dans une série de prédications sur la vie de Pierre, dont nous avons parlé à l'instant. Et j'aborde aujourd'hui la troisième partie. Je suis convaincue que vous attendez avec impatience la suite des aventures de Simon, appelé Pierre, le disciple de Jésus, un homme simple, pêcheur de profession, spontané, direct, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et surtout, c'est un fan de Jésus. Depuis qu'il a fait sa connaissance, il est convaincu qu'il tient là un authentique prophète et peut-être bien même le Messie. Aussi, Pierre le suit partout. Il ne rate aucune de ses conférences. De nos jours, on trouverait des posters de Jésus sur tous les murs de sa chambre. Jésus, il l'aime. Il est devenu son plus fidèle disciple. Pierre est-il parfait? Non. Et c'est même cela qui est intéressant. Il y a des ombres au tableau. Il fait des erreurs. Et ces erreurs nous enseignent également. Depuis que j'ai étudié la Bible, j'ai constaté que les auteurs bibliques évitent de dire du mal de quelqu'un, car ce serait de la calomnie, sauf si ces erreurs sont pédagogiques pour nous. Et c'est ce que nous allons étudier ensemble ce matin. Pour commencer, nous allons aller à la fin du livre de Jean, de l'évangile de Jean, lors d'une rencontre qui se passe après la résurrection de Jésus. Nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? » ?»«
Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. »
Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » ?»«
Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour moi. »
Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Mais Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Alors ce récit se passe le jour où les disciples pêchaient et n'avaient rien pris, et un homme leur dit de jeter encore leur filet. Et ils font une nouvelle pêche miraculeuse. Là, les disciples reconnaissent que l'homme est Jésus, le ressuscité. Il les attend avec un barbecue de poisson et du pain. Et ils mangent ensemble. C'est au cours de ce repas que Jésus pose la même question trois fois à Pierre. C'est ce trois fois que j'aimerais souligner. Et on reviendra sur le texte que j'ai lu plus tard. Trois fois. Quand Dieu dit quelque chose trois fois, c'est toujours important. Ce trois fois rappelle à Pierre qu'il a renié trois fois Jésus. Ce trois fois rappelle que Jésus l'avait prévenu de ce triple reniement. Et ce trois fois renvoie à trois dérapages. Nous allons voir les trois fois où Pierre s'est trompé, les trois fois où il a renié, et nous reviendrons à nos textes de départ avec les trois questions. Merci. Pierre veut protéger Jésus trois fois. J'ai dit tout à l'heure que Pierre était fan de Jésus. Il se voit bien comme le garde du corps de Jésus. Dans tous ses déplacements, il veille à ce que la foule ne le serre pas de trop près. Il met sa barque à disposition de Jésus comme une estrade. Il est très protecteur. Mais cet amour qu'il a est très humain, et il va à l'encontre des plans de Dieu. Voyons quelques textes. Nous allons lire L'Évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors écoutez bien. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Mais Jésus, se retournant, lui dit « Arrière, Satan ! Éloigne-toi de moi ! Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Quand Jésus annonce qu'il sera arrêté et mis à mort, Pierre réagit au quart de tour, comme d'habitude. « Moi vivant, jamais !» Je vais te protéger, Jésus. Tu ne seras pas arrêté. Tu peux compter sur moi. Je suis là. On comprend bien qu'il n'est pas mal intentionné. Aussi, c'est la réponse de Jésus qui nous surprend. Arrière de moi, Satan, à son plus fidèle disciple. Enfin, voyons, on ne parle pas comme ça. Jésus traite Pierre de Satan. Incroyable. Incroyable. En fait, Jésus lui dit qu'il contrecarre les plans de Dieu. Il est écrit que Jésus doit mourir. C'est le plan. En s'y opposant, Pierre s'oppose au plan du salut. Si Jésus ne meurt pas, il n'y a pas d'expiation, il n'y a pas de pardon, nous restons sous la colère de Dieu. Vous voulez empêcher ça ? Il existe une religion qui n'admet pas que Jésus soit vraiment mort. C'est exactement la même attitude que Pierre. Cette religion n'a pas compris la nécessité absolue du sacrifice de Jésus. Cette religion a des pensées toutes humaines. Passons maintenant à la deuxième erreur de Pierre. On va sauter une dizaine de chapitres et arriver à Matthieu 26, versets 31 à 34. Jésus leur dit alors, « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui arrivera, moi, je ne le serai pas. » Jésus reprit, « Vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié trois fois. » Donc cette discussion se passe dans le jardin de Gethsémané, après le repas de la Pâque. Jésus annonce à ses disciples qu'il va se passer un événement qui va les secouer dans leur foi. Et il cite une prophétie. C'est un petit peu énigmatique pour les disciples, mais l'orgueil reprend le dessus chez Pierre. Les autres, peut-être, seront ébranlés. Mais pas moi, je suis fort, je tiendrai. Pierre est présomptueux, il compte sur ses propres forces. Et c'est là que Jésus le reprend. Vraiment, tu es sûr ? Moi, je sais que tu vas me renier trois fois. La suite de ce moment-là continue dans le passage parallèle de Marc. Au verset 29, Pierre lui déclara, « Même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. » Jésus lui répond, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Mais Pierre protesta avec véhémence, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Non seulement Pierre affirme qu'il ne sera pas ébranlé, mais aussi il renchérit en disant qu'il ne le reniera jamais, il est prêt à mourir pour Jésus. Que voyons-nous ici ? Que Pierre aime Jésus au point de mourir pour lui. Sur quoi se base-t-il ? Sur ses propres forces. Mais voilà qu'il présume de ses forces qui ne sont pas si fortes que ça. Toujours le même dialogue dans Luc, dans le passage parallèle chez Luc qui se réfère à la même discussion. Alors on va vivre chez Luc, voilà. Jésus dit quelque chose d'intéressant. « Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Simon, je suis prêt, s'il le faut, à aller en prison avec toi et même à mourir. Pierre reprit Jésus, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu auras par trois fois nié de me connaître. Que voyons-nous là au verset 33 ? Simon-Pierre affirme qu'il est prêt à aller en prison et même à mourir pour Jésus. Belle déclaration. Mais Jésus sait que Pierre ne tiendra pas. Il prie seulement pour qu'il garde la foi. Le risque est réel. Jésus sait que tout le monde va être secoué. Pierre va être vraiment ébranlé de voir son chef arrêté et mourir sur la croix. Il y a encore un autre dérapage à regarder. C'est lorsque Jésus est arrêté, donc peu de temps après. Cette fois, nous lisons dans Jean, chapitre 18, versets 10 à 11. Donc, on vient, une petite troupe qui vient pour arrêter Jésus, avec plusieurs vigiles ou gardes du corps, enfin, ce que vous voulez. Et Simon-Pierre, qui avait une épée, la dégaina, en donna un coup au serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Ne dois-je pas boire la coupe du jugement que le Père m'a destinée ?» Donc lorsque Jésus est arrêté, Pierre dégaine son épée et donne un coup, un peu au hasard. Il avait envie d'en découdre. Ce n'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Et Jésus remet son oreille au serviteur. Je passe sur cette guérison-là, c'est pas ce qui nous importe. Les passages parallèles des trois premiers évangiles ne donnent pas le nombre du disciple qui a fait ça, par pudeur pour Pierre. Ils disent un disciple. Mais Jean, qui écrit son évangile beaucoup plus tard, peut-être même après la mort de Pierre, peut se le permettre, c'est comme ça qu'on sait que c'est lui. Donc Pierre a envie d'en découdre pour protéger Jésus. Une fois de plus, il n'a pas compris que le plan de Dieu passe par là. Une fois de plus, il agit de manière humaine. Une fois de plus, il se comporte comme le garde du corps de Jésus. Vous voyez, là où il croit que Jésus exprime des craintes, un risque, il se trompe parce qu'en fait Jésus prophétise des choses qui vont vraiment arriver. Mais ça, il ne comprend pas sur le moment. Donc là, dans notre passage, il s'agit de l'utilisation des armes. Dans le passé, l'histoire d'Israël, on voit que ce peuple n'a pas hésité à utiliser les armes pour se défendre. Mais je pose la question. Est-ce que c'est à nous de défendre Dieu ou bien est-ce que c'est Dieu qui nous défend? Qui protège qui? Qui protège qui? D'un côté, Jésus protège Pierre par la prière et aussi en le recadrant. Pendant que dans sa tête, Pierre imagine qu'il va protéger Jésus. Vous voyez l'incongruité de penser que nous, on peut protéger Dieu ou le Fils de Dieu alors que c'est le contraire. Continuons. Ce qui devait arriver, arriva. Pierre renie Jésus trois fois. Nous arrivons à ce moment dans la vie de Pierre que Jésus annonçait. Pierre renie Jésus trois fois, dont deux en jurant et une fois avec serment. Pour Pierre, il s'agissait d'un défi. Pour Jésus, c'était une prédiction. Il savait que cela n'arriverait pas une fois, ni même deux, mais trois fois. Nous allons lire dans Matthieu, au chapitre 26, versets 69 à 75. Pendant ce temps, Pierre était resté assis dehors, dans la cour intérieure. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais Pierre le nia en disant devant tout le monde, « Je ne vois pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là, « En voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau et il jura, « Mais je ne connais pas cet homme. » Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent « C'est sûr, toi aussi, tu fais partie de ces gens, c'est évident, il suffit d'écouter ton accent. » Alors Pierre se mit à dire « Je le jure et que je sois maudit, si ce n'est pas vrai, je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Alors je suis vraiment désolée parce que je ne sais pas faire les accents, pas du tout. Sinon je vous aurais bien fait ça avec l'accent marseillais. Mais voilà, j'en suis incapable. Trois fois, les choses se passent vite, trop vite. Pierre n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'il dit, il réagit à l'instinct comme d'habitude. Et avant qu'il ait eu le temps de dire « Ouf, ça y est, c'est fait !» La prédiction s'est réalisée. La preuve, le coq a chanté. Dans les trois reniements, il y a une progression. Une affirmation, puis il jure avec un serment. Le passage parallèle dans Luc 22, 61 précise ceci. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. » Le regard de Jésus en dit long. Je te l'avais bien dit. Là, c'est la chute. Le gadin. Pierre s'est lamentablement ramassé. Il a honte et il pleure. Ce que moi, j'interprète comme un signe de repentance. À ce moment-là, Pierre se déteste. Pierre est brisé, sa belle assurance a disparu. On n'entend plus parler de Pierre jusqu'à la résurrection, alors que Jean et les femmes étaient restées au pied de la croix. Ce sont elles qui ont manifesté de la foi. Elles ont été plus fortes que Pierre et les autres apôtres. Intéressant, n'est-ce pas? Pierre, lui, reste sidéré. Il doit se cacher dans un petit coin. Et, troisième partie, Jésus rétablit Pierre trois fois. Nous allons maintenant revenir à notre texte du début et examiner le rétablissement de Pierre dans ses fonctions. Vous pensez bien qu'après un tel reniement, Jésus ne peut pas passer sous silence ce dérapage. Il faut qu'il y ait des paroles qui soient dites. Non seulement pour Pierre, mais aussi pour tous les autres qui sont au courant, bien sûr. Mais Jésus va opérer cette restauration finement, très très finement. Nous allons regarder les mots qui parlent d'amour et les mots qui parlent de ministère pastoral. Parlons d'amour. Vous avez certainement entendu dire que le grec a plusieurs mots pour parler d'amour. Le premier, le plus courant, est philia. C'est ce mot qu'on utilise pour dire qu'on aime le chocolat, qu'on aime aller au cinéma, qu'on aime son conjoint, ses parents, ses enfants ou ses copains. Philia est tous les mots de la même famille. En français, tous les mots qui se terminent par phil ou philie, cinéphile, germanophile, bédéphile, etc., expriment le fait d'aimer quelque chose. Le deuxième mot qui parle d'amour, c'est eros. On ne le voit pas beaucoup dans l'Évangile. Ça exprime tout ce qui touche à la sexualité, à l'érotisme. Et enfin, le troisième, c'est agapé. Vous le connaissez bien, celui-là. Les traducteurs de la Septante qui ont traduit la Bible de l'hébreu au grec ont choisi ce mot qui était très peu utilisé à l'époque pour traduire les passages qui expriment l'amour de Dieu pour son peuple ou l'amour du peuple pour Dieu ou pour son prochain. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces. » Agapé. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Agapé. Il s'agit d'un amour fort, désintéressé, non sexualisé, mais spiritualisé, presque inatteignable. Dans notre texte, Jésus utilise deux fois agapé. Donc, si vous voyez les couleurs, alors je ne sais pas si on voit bien les couleurs. Là. C'est en vert, agapé. Même tu. Mais Pierre un petit peu gêné, honteux de l'avoir renié, n'arrive pas à utiliser ce mot. Lui, il utilise « philia » dans ses réponses, en bleu, dans le texte. Cela donne un dialogue un peu comme ceci, parce que c'est un peu difficile à rendre en français. « Pierre, m'aimes-tu comme on aime Dieu ?» Et Jésus répond « Jésus, je t'aime bien, tu es mon ami, tu es mon pote, deux fois de suite. » Alors Jésus, la troisième fois, « Pierre, m'aimes-tu comme ton ami ?» Et Pierre, « Je t'aime comme un ami très cher. Hein » Jésus n'arrive pas, non pardon, Pierre n'arrive pas à dire à Jésus qu'il l'aime comme Dieu. Alors qui sait qu'il est le Fils de Dieu ? Mais Pierre a été brisé. Avant peut-être, il aurait dit ça, hein, mais là il a été brisé. Il ne se sent plus capable de grandes déclarations comme avant. Et remarquez toute la douceur de Jésus dans ce dialogue. Il n'a pas du tout un ton accusateur. Pas du tout. Voyons maintenant les réponses de Jésus. Prends soin de mes agneaux, nourris mes brebis, prends soin de mes brebis. Bien sûr, il s'agit du ministère pastoral qui est confié à nouveau à Pierre comme chef de l'Église. C'est un rôle de soignant, d'aidant, c'est un rôle de protection aussi contre les bêtes sauvages, c'est un rôle de conducteur. Mais ce n'est pas un rôle de gros bras, de vigile, de garde du corps comme Pierre le sentait au début. Là, Pierre ne devra pas compter sur ses muscles, mais sur la grâce de Dieu. Sur l'Éternel qui est un appui, un refuge, un bouclier, comme vous le savez. La délicatesse de Jésus ne rappelle pas la faute lourdement, mais fait grâce. Il dit à Pierre qu'il lui fait confiance pour être le leader du troupeau, et il le dit trois fois. Alors qu'avons-nous appris ? Nous allons maintenant essayer de lier la gerbe. La force n'est pas dans nos propres forces. L'exemple de Pierre nous parle parce que nous aussi, nous avons pu croire à un moment ou à un autre que nous devions montrer nos muscles pour défendre Dieu. Nous comptions sur nos propres forces, notre détermination. Nous faisons des efforts pour être forts. Lorsque nous envisageons la persécution, nous nous demandons quand même jusqu'à quel point nous pouvons être forts par nous-mêmes. Sommes-nous capables de subir ce que d'autres ont subi pour Christ ? Et là, je suis contente de ce flash mission que nous avons eu ce matin, qui fait un écho énorme à ce que je vous dis là, dans la prédication. Je crois que Jésus a laissé Pierre se planter pour qu'il comprenne les limites de ses propres forces. Il a prié surtout pour que sa foi ne défaille pas. Vous avez vu l'Église qui priait après l'attaque qu'elle a subie, sa foi était là. Et vous avez vu aussi cet homme Ayouba qui au début voulait prendre sa revanche et qui finalement laisse tomber. C'est énorme ce qu'on a vu là hein, ce matin. Jésus ne nous laissera pas devant une épreuve sans nous donner les moyens d'en sortir, sans nous donner sa force à lui. Que ce soit avant la conversion ou après, peu importe, il y a toujours un moment où nous devons comprendre que nous devons renoncer à suivre Jésus par nos propres forces. La force est en Christ. Ça vous fait penser à quelque chose ? La force vient de Jésus. C'est lui qui a versé son sang, c'est lui qui a donné sa vie pour nous, c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui nous donne le Saint-Esprit, c'est lui seul qui a tout accompli et qui nous protège. Il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse et il faut que nous le laissions s'accomplir. La seule chose qui nous est demandée est de faire confiance à Jésus. Alors le chemin du disciple peut paraître semé d'embûches, parfois d'échecs. C'est ainsi que nous apprenons. On fait des essais, des erreurs, et nous apprenons de nos erreurs. Et nous continuons. Nous continuons parce que nous comptons sur la grâce de Dieu et son pardon. Ce n'est pas très grave de tomber. On se relève et on repart. C'est beaucoup plus grave d'abandonner. Est-ce que quelqu'un a, comme Pierre, complètement dérapé ? Est-ce que quelqu'un n'ose pas revenir ? Si tu te reconnais, la bonne nouvelle, c'est que oui, tu peux revenir. Tu peux réintégrer la famille de Dieu en comptant non pas sur tes forces, mais sur la grâce. Si tu te reconnais, viens en parler à la sortie. Et nous allons prier. Seigneur, garde-nous de toute chute, et si nous chutons, fais-nous revenir. Là où ton peuple est particulièrement éprouvé, Seigneur, nous te prions que tu préserves sa foi. Nous voulons te faire confiance, car nous ne comptons pas sur nos forces, mais sur les tiennes pour nous protéger. Amen.